La première, podcast. Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La première.
Et ce vendredi, nous allons mettre avec Monumental le cap sur les États-Unis et plus précisément au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington. C'est là que se situe la Maison Blanche, résidence des présidents américains. Alors quand on regarde l'édifice, on a un peu de peine à croire qu'il comporte 6 niveaux d'habitation. 135 chambres, 35 salles de bain, 412 portes et 28 cheminées. Joanne Ducey de la radio-télévision suisse va recevoir aujourd'hui Vincent Michelot, qui est historien des États-Unis, qui va nous faire la visite et puis aussi revenir sur l'histoire de quelques-uns des illustres occupants de cette Maison Blanche.
Au-delà de l'océan Atlantique, naissait une république nouvelle, les États-Unis d'Amérique. Dans les premières années qui suivirent la proclamation d'indépendance, et jusqu'en 1800, Philadelphie fut le siège du gouvernement fédéral. Puis la capitale se déplaça vers le sud, à Baltimore. Remonta à Lancaster, en Pennsylvanie. S'établit pour un temps aux environs de York. Ensuite à Princeton. Redescendit à nouveau dans le sud, à Annapolis. Revint dans le nord, à Trenton. À New York, enfin. Mais la nécessité d'avoir une résidence permanente pour capitale s'imposait au Congrès qui vota la construction d'une cité fédérale. Le président George Washington choisit lui-même un site au confluent du Potomac et de l'Anacostia, enclavé dans les États du Maryland et de la Virginie. Le district de Columbia était né. Et avec lui, la capitale fédérale qui allait porter le nom du libérateur des États-Unis, Washington.
Vincent Michelot, pourquoi avoir choisi Washington pour y installer la Maison Blanche à l'époque ?
Parce que les grandes villes de l'époque, c'était New York et Philadelphie, Boston, et qu'il était hors de question dans un État fédéral de donner la capitale des États-Unis, donc une superstructure qui était au-dessus des États, à l'un des États qui aurait été ainsi avantagé. Et donc, dès 1790, 3 ans après l'adoption de la deuxième constitution américaine, le Congrès des États-Unis décide de construire une capitale et une Maison Blanche pour y abriter le chef de l'exécutif, le président, et le premier habitant de la Maison Blanche, le premier président, ce sera le deuxième président des États-Unis, Adams, qui emménage à la Maison Blanche dans la dernière année de son mandat.
L'article 2 de la Constitution crée un deuxième pouvoir gouvernemental, l'exécutif. Le pouvoir exécutif est symbolisé aux yeux du monde entier par la Maison Blanche, tout à la fois résidence et bureau du président des États-Unis. Le plus ancien et l'un des plus beaux édifices publics de Washington, la Maison Blanche, fut occupé par tous les présidents depuis John Adams qui succéda à George Washington.
Alors on sait qu'il s'agit de la résidence du président des États-Unis, mais qu'est-ce qu'il s'y passe à cette Maison Blanche, dans cette Maison Blanche ?
Ça dépend de l'époque. Aujourd'hui, il s'y passe énormément de choses, puisque c'est une forme de ruche dans laquelle travaillent au moins 500 personnes. Et dans la réalité, il y a beaucoup plus de personnel qui est attaché directement à ce qu'on appelle le bureau exécutif du président, the Executive Office of the President en anglais. On estime qu'environ 2000 personnes travaillent pour cette Maison Blanche. Et en même temps, on rappellera que lorsque Franklin Roosevelt entre à la Maison Blanche en 1933, le 1er mars 1933, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent à la Maison Blanche, pas plus. Donc c'est une forme de palais exécutif qui a connu une expansion extraordinaire à partir de cette période de changement complet de l'État aux États-Unis, qui est le New Deal, donc la période à partir de 1933.
Vous le disiez tout à l'heure, il y a passablement de monde qui travaille dans cette Maison Blanche. Et il paraît que les journalistes qui sont accrédités à la Maison Blanche, ils ne sont pas nombreux, eux travaillent à la piscine.
En fait, ils travaillent sur un ancien endroit qui était effectivement la piscine que le président Franklin Roosevelt, cette fois-ci, avait fait construire. On sait que ce président souffrait des séquelles de la polio, qu'il passait la plupart de son temps dans une chaise roulante, ce qui fait que, d'ailleurs, la Maison Blanche a été un des premiers bâtiments officiels des États-Unis à être rendu accessible pour les handicapés. Il se déplaçait dans une chaise et il avait comme principal loisir la natation. station, ce qui explique qu'il avait fait construire une très belle piscine dans la fameuse West Wing, dans l'aile ouest de la Maison Blanche. Cette piscine devient obsolète, les présidents ne l'utilisent pas véritablement, et puis il faut faire de la place à un corps de presse qui est de plus en plus important, et c'est effectivement à l'époque du président Nixon que la piscine devient une piscine de presse.
On a l'impression qu'il y a eu régulièrement des travaux au sein de cette Maison Blanche.
Tout à fait. La Maison Blanche est un endroit qui évolue en permanence pour tantôt faire face à des besoins technologiques, tantôt faire face à l'afflux de nouveaux personnels, tantôt aussi s'adapter à telle ou telle famille présidentielle qui a des caractéristiques bien différentes en fonction de l'âge du président.
Donc chaque président y a vécu de manière vraiment différente.
Absolument. Il faut rappeler par exemple que lorsque le président Eisenhower entre à la Maison Blanche en janvier 1953, il a 63 ans. Le président Reagan est encore plus âgé lorsque lui-même entre à la Maison Blanche en 81. Donc là, on a des gens qui sont des grands-pères qui entrent à la Maison Blanche. Et puis, dans l'autre cas, on a évidemment le président Kennedy, qui est le plus jeune président des États-Unis élu, qui entre à la Maison Blanche en janvier 1961. Et lui, son fils vient de naître l'automne précédent, en novembre de 1960. Et c'est d'ailleurs ce fils qui reste dans l'image, ou la photographie reste gravée dans la mémoire américaine, puisqu'il naît peu de temps après l'élection de son père à la présidence des États-Unis en novembre 1960. Et c'est lui qui célèbre d'une manière tragique son troisième anniversaire aux funérailles officielles de son père en novembre 1963, et c'est ce petit garçon de 3 ans qu'on voit saluer le drapeau américain et le cercueil de son père qui est tiré par 2 chevaux.
Vendredi 22 novembre 1963, il est 18h, nous sommes aux environs de Washington. Le président John Fitzgerald Kennedy a été assassiné par balle il y a moins de 5 heures au Texas, dans la ville de Dallas. Il avait 46 ans. Le cercueil est transporté vers un hôpital militaire où le corps du président sera préparé pour les funérailles.
Qu'on soit un grand-père ou un jeune père, on ne vit pas de la même manière au sein de cette Maison Blanche. Où il y a également les familles recomposées.
Il y a les familles recomposées, mais il y en a peu, en fait. On sait que, par exemple, le seul président des États-Unis qui était divorcé, c'est le président Reagan. Mais en revanche, on a aussi eu tous les âges à la Maison-Blanche. On a eu des adolescents, on a eu de jeunes adultes. Donc, évidemment, la Maison-Blanche doit s'adapter à ses familles. On l'a vu très, très récemment. Michelle Obama a 2 jeunes adolescentes. Elle a installé à la Maison-Blanche un potager. Elle mène depuis ce potager une forme de campagne contre la malbouffe et l'obésité. C'est une première dame qui a un rôle totalement différent de certaines des femmes qui l'ont précédée dans la fonction.
20 years ago, I became the luckiest man on earth because Michelle Obama agreed to marry me. And so I just want to wish, sweetie, you happy anniversary and let you know that a year from now, we will not be celebrating it in front of 40 million people.
À votre avis, c'est une question pas simple, ça, Vincent Michelot. Qui a marqué les lieux ?
Pour moi, c'est une question très simple. La Maison Blanche a été marquée par des grands hommes. On ne peut malheureusement parler aujourd'hui que d'hommes. Et ces grands hommes, il est très facile de les identifier. Le premier occupant, mais il n'a jamais occupé la Maison Blanche, c'est George Washington, le premier président des États-Unis. Mais c'est lui qui lance la construction du bâtiment. Et puis ensuite, la liste, elle est connue de tous les historiens des États-Unis. Le premier très grand président, c'est effectivement et évidemment le président Jefferson. C'est le président de l'expansion des États-Unis, de l'achat de la Louisiane, de la stabilisation des partis politiques aux États-Unis. Le suivant, c'est évidemment Andrew Jackson, qui entre à la Maison-Blanche en 1829 et tous datent l'entrée dans la modernité politique des États-Unis de cette époque. Et puis, ensuite, Abraham Lincoln, évidemment. et puis derrière, Theodore Roosevelt, et ensuite, un homme surprenant, parce que lorsqu'il devient président des États-Unis, personne ne s'y attendait, c'est Harry Truman qui prend la succession de Franklin Roosevelt, que tous les classements aujourd'hui identifient comme étant un très grand président des États-Unis, et un président des États-Unis qui pilote la destinée des États-Unis à un moment clé de la guerre froide, au moment où la guerre froide est sur le point de devenir une guerre nucléaire.
Washington a fêté ce qu'on appelle là-bas l'inauguration du 32e président des États-Unis, M. Harry Truman, qui se succède à lui-même. Devant plus de 100 000 spectateurs, le président, conformément à l'usage, a prêté sur la Bible le solennel serment de défendre la Constitution.
So help you God. So help me God.
Un immense défilé a ensuite conduit à travers sa capitale le successeur de Roosevelt sous les yeux de plus d'un million de citoyens venus acclamer celui qui va pour 4 ans diriger la politique américaine. L'époque est trouble, la tâche de M. Truman est lourde et difficile. Le monde attend à ses actes l'homme qui reprend en main le destin des États-Unis.
Pour moi, la Maison Blanche, ça évoque surtout la signature de très très grands textes de loi. Il y a des moments particulièrement émouvants. Sans doute la loi la plus importante que le Congrès des États-Unis ait signée au XXe siècle, c'est la loi sur les droits civiques de 1964 qui met véritablement fin à l'ère de la ségrégation raciale par le droit. Et cette loi, sa signature, en général, les signatures de loi se font dans la roseraie de la Maison-Blanche lorsque le temps le permet. C'est des moments beaucoup plus symboliques, beaucoup plus importants pour les Américains que la signature d'un traité dont beaucoup d'Américains ne connaissent pas les détails et pour lesquels la signification est très distante et très immatérielle par rapport à la signature de ces très grandes lois, que ce soit la loi sur les droits civiques, mais aussi d'autres grands textes qui ont pu créer, par exemple, le système de retraite qu'on connaît aux États-Unis aujourd'hui, qui s'appelle la sécurité sociale, Social Security, mais qui, aux États-Unis, est un système de retraite par répartition. Moi, j'associe plus la Maison Blanche, la roseraie, le stylo présidentiel et le président entouré des principaux parrains de la loi au Sénat, à la Chambre des représentants et puis des associations qui ont porté ce combat, par exemple pour la déségrégation ou encore pour d'autres formes de causes, qu'elles soient progressistes ou conservatrices.
Ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est qu'il est vraiment difficile de vivre à la Maison Blanche. C'est pas si confortable que cela, Vincent Michelot.
D'une certaine manière, c'est un endroit très cérémoniel. On a l'impression de vivre dans un bocal. Et c'est vrai que certains présidents des États-Unis n'ont pas vraiment l'impression d'avoir un logement plus confortable que ceux qu'ils quittent lorsqu'ils sont élus. Pour autant, évidemment, la Maison-Blanche bénéficie de toutes les formes de confort moderne. Mais je crois que c'est pas tellement le confort au sens matériel du terme qui pose le problème aux occupants de la Maison-Blanche, plutôt que l'idée de vivre dans un bocal, l'idée de vivre constamment surveillé par les agents des services secrets de la Maison-Blanche qui sont chargés de protéger le président, de ne pas pouvoir s'échapper. Et il y a beaucoup, beaucoup de présidents qui souhaitent pouvoir s'échapper, et surtout dans la période moderne, puisque on a, il faut bien le dire, un rapport aujourd'hui très très différent entre le président et, de manière plus générale, les hommes politiques et la presse. Il faut se souvenir quand même que le président Kennedy avait, on le sait, une vie conjugale, extra-conjugale, extrêmement importante, et qu'il n'hésitait pas, et même à faire venir ses maîtresses ou ses conquêtes d'un soir à la Maison Blanche, et que il y avait une espèce d'omerta dans la presse, on n'en parlait pas. On le savait, il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient parfaitement au courant, mais c'était quelque chose qui n'était jamais tombé dans le domaine public, et que même un adversaire politique très très négatif ne pouvait pas mettre sur la place publique.
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Aujourd'hui, il est évidemment impossible pour le président des États-Unis de faire trois pas sans que la presse le rapporte. Et je crois que, surtout pour les familles, cette impression de vivre constamment dans une forme de loft politique est particulièrement pénible.
Une prison dorée ?
Oui, c'est une forme de prison dorée, mais en même temps, là encore, il faut relativiser les choses. Un président des États-Unis passe un maximum de 8 ans dans cette Maison Blanche. Il sait parfaitement ce à quoi il s'expose le jour où il entre à la Maison Blanche. Et il n'y a pas de surprise. Il y a simplement la confirmation de ce que ses prédécesseurs ont pu lui dire et de ce que chacun sait, effectivement, de la vie dans cette prison dorée.
Dans ses mémoires, Hillary Clinton compare la vie à la Maison Blanche à celle d'une unité militaire.
Oui, mais là encore, faut-il s'en surprendre ? Le président des États-Unis, dans les années 50, dans les années 60, était ce qu'on appelait le leader du monde libre. D'ailleurs, dans sa déclaration de candidature en janvier 1960, Kennedy annonce qu'il va se présenter à la candidature pour la présidence des États-Unis en disant littéralement qu'il se présente aussi d'une certaine manière à la candidature de leader du monde libre. Donc voilà sans doute le poste politique le plus puissant dans le monde. Est-ce qu'il faut être surpris que l'agenda du président soit réglé à la minute sur la durée d'une journée ? Faut-il être surpris que la journée soit découpée en tranches d'un quart d'heure ou voire en tranches de 10 minutes et que la journée soit minutée de 7h à 22h ? Non, je crois qu'il faut tout simplement être réaliste et puis faire quelques comparaisons. Est-ce que la journée du dirigeant d'une très grande entreprise, de quelque secteur que ce soit, est plus libre ? Est-ce que le PDG d'une entreprise internationale a un agenda qui lui permet à tout moment de s'échapper, de prendre le temps de lire un roman ou encore de passer une heure à faire ses devoirs avec sa fille ou son fils ? Non, c'est pas possible. Donc, c'est encore moins possible. Évidemment, pour le président des États-Unis, on est face à des gens qui sont dans des situations tout à fait exceptionnelles pour une durée courte. Elle est assumée et bien entendu, ils peuvent s'en plaindre, mais en même temps, c'est une fonction à laquelle ils ont été candidats en toute connaissance de cause.
Vincent Michelot, depuis les attentats du 11 septembre, cette Maison Blanche ne se visite plus que sous condition. C'est très difficile d'y avoir accès.
Ce qui a beaucoup en fait marqué les Américains, c'est cette transition entre une Maison Blanche qui, au début du 19e et jusque dans les années 30-40, était vraiment la maison du peuple. Et il fallait que le président des États-Unis se distingue complètement des monarques européens. Et donc, il ouvrait la Maison Blanche, et notamment à l'occasion des élections ou à l'occasion du premier de l'an ou de Thanksgiving, la Maison Blanche devenait une maison ouverte au peuple des États-Unis, avec aussi les débordements qui y étaient associés. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait rendre cette maison moins accessible. Et donc, on a là l'image, le symbole d'une Maison Blanche qui devient un petit peu plus fermée, qui s'impérialise au fur et à mesure que le pouvoir du président des États-Unis croît, parce que le pouvoir du président des États-Unis, ce n'est pas le même au milieu du 19e et puis en 1960 ou en 2012. Et donc, l'ouverture ou la fermeture de la Maison Blanche sur l'extérieur, beaucoup plus que finalement l'épiphénomène monstrueux et tragique que représente le 11 septembre, c'est le symbole d'un lieu de pouvoir qui s'exerce de manière plus secrète, mais aussi plus forte.
Voilà, c'était donc Vincent Michelot, historien des États-Unis, qui nous a visité la Maison Blanche au micro de Johan Ducey pour l'émission monumentale de la RTS.